Rosny est né, le condamné à mort. C'était ma première cause importante, raconta l'avocat Baster. Elle fut l'origine de ma fortune et de ma renommée. L'homme qui m'avait accepté pour défenseur venait de commettre un crime ignoble. Il avait assassiné deux vieillards, les époux Maillot, avec des raffinements de férocité. La femme, ayant survécu au coup de talon dont il lui abourra le ventre, lui maintint la tête dans un feu de cheminée, un feu qui brûlait mal, jusqu'à ce qu'elle cessât de hurler, de râler et de panteler. La face de cet assassin marquait assez bien son caractère. Elle était courte par le front et le nez, et longue par le développement furieux de la mâchoire inférieure. Des yeux ronds, des yeux de mandrill phosphorescaient sous des sourcils en moustache. Les bras se terminaient par des pattes cramoisies, dont les ongles poussaient avec une rapidité fantastique et qui surprenaient par leur envergure. Son crime lui avait rapporté 17 francs, car les économies des vieux se trouvaient à la caisse d'épargne. Il ne pouvait être question pour lui de se repentir. Il ne sentait pas son crime. Il laissait à peu près exactement l'état d'âme d'un loup ou d'un léopard qui a dévoré sa proie. Mais comme à son âme de bête il joignait une mémoire d'homme, il regrettait de n'avoir pas recueilli un butin plus abondant et surtout de s'être laissé prendre. Tout de même, il gardait le souvenir d'une belle bordée pendant laquelle 10 litres de vin et maint petit verre d'eau-de-vie avaient exalté sa cervelle. « J'ai bien rigolé, toujours, » répétait-il avec un rire hargneux. Je remplis ma tâche du mieux que je pus. D'abord, Pierre Fourque se montra plein de méfiance et de menaces. Il ne me répondait pas. Il fixait sur moi des regards presque homicides. Après quelques jours, il se rendit compte que j'étais positivement son défenseur, et une fois que j'avais une altercation avec le juge d'instruction, il eut une sorte d'aboiement et cria « Batte !» Ensuite, il me donna sa confiance. Il me fit même des confessions qui me gênaient et m'épouvantaient. Le jour du jugement, je plaidais avec chaleur. Je donnais mon âme comme une victime de l'incurie sociale. Je dépeignais sa vie d'orphelin et de vagabond. Je fis appel à la justice et surtout à la compassion des jurés. L'homme bête que le réquisitoire avait mis en fureur et qui plusieurs fois avait fait mine de bondir vers le procureur général fut pris d'une émotion inouïe lorsque je parlais à mon tour. La prunelle dilatée et la bouche entr'ouverte, à chaque instant il tendait vers moi ses mains captives où poussait un grognement de reconnaissance. Quand j'eus fini, il beugla. « C'est à la vie, à la mort !» Il écouta le verdict et la condamnation avec indifférence, soit qu'il comprît mal, soit que son intellect rudimentaire ne lui permit pas de s'intéresser à un avenir qui dépassait plusieurs journées. Quand il fut à la roquette, car ceci se passe au temps de la roquette, il demanda fréquemment à me voir. Il m'accueillait avec des démonstrations qui ressemblaient assez à celles du chien qui revoit son maître. D'ailleurs, il ne s'inquiétait guère. Il savait que je m'occupais à obtenir sa grâce, et il s'en rapportait à moi, sûr qu'en fin de compte, je réussirais à sauver sa tête. Seulement, il trouvait le temps long, car il avait l'habitude du grand air. Sa cellule lui semblait étouffante et terriblement ennuyeuse, d'autant plus qu'il n'entendait pas grand-chose au jeu de cartes. Il ne me parla qu'à 2 ou 3 reprises de sa mort possible. Il me disait alors « Sûr que vous viendriez me voir au dernier moment ?» Je lui promettais, résolu à tenir parole. Malgré mes efforts, sa grâce fut refusée. Et vers la fin d'une brumeuse nuit de novembre, je me trouvais près de la cellule du condamné avec la magistrature, l'aumônier, les gardiens et Deblair. Nous étions tous fort émus, même les gardiens. Le prisonnier dormait paisiblement. Ses nuits, du reste, étaient bonnes. L'idée de son réveil nous faisait froid au cœur. La porte s'ouvrit. Le sommeil du misérable était si profond qu'il ne s'en aperçut même pas. On pouvait voir son crâne sombre, sa face grise et la forme renflée de son corps sous les couvertures. Un gardien le toucha doucement. Il fit un geste vague, se tourna à demi et se frotta les yeux en poussant un grognement. Puis il se dressa sur son séant et nous regarda avec une évidente surprise, mais sans crainte. « Moi qui n'y a ?» grommela-t-il. « C'est pas une heure pour déranger le monde !» Alors le procureur, tout pâle, murmura d'une voix tremblante. « Pierre Fourgue, j'espère que vous aurez du courage. Votre recours en grâce est rejeté. » « De quoi rejeter? Qu'est-ce qui est rejeté ?» Tout à coup, il comprit et devint grave. « Du courage » ricana-t-il. « On verra si quoi en a !» Il se leva avec fermeté. Il commença à s'habiller. Par moments, il jetait un regard sommaire autour de lui. Jusqu'alors, il ne m'avait pas reconnu. Je me tenais peureusement caché derrière les autres. Mais brusquement, il m'aperçut et un vague sourire crispa sa lèvre. « Pardon, excuse » s'écria-t-il. « Je vous avais pas vu. Je suis bien content. » Il tenait sa veste à la main. Il me regardait dans les yeux avec un mélange de confiance, d'affection et de stupeur. « C'est-il vrai ce que dit cet autre ? » demanda-t-il. « Oui, c'est vrai, » balbutiai-je d'une voix anéantie, « mais je suis sûr que vous ne faiblirez pas. »« Moi, faiblir, ah ben !» Il me tendit les mains en grommelant. « J'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. » Après quoi, il passa sa veste. Sans doute, sa conscience obtuse ne réalisait pas encore complètement l'événement. Aucune menace n'émanait de la contenance des visiteurs. Il devait se figurer que l'exécution était précédée de quelques cérémonies, brutales ou terribles. Il me demanda encore, « Ce n'est tout de même pas pour la veuve qui vienne !» Je fis un signe de tête. Soudain, il se rendit à un compte exact de la situation. Sa mort, qu'il n'avait jamais bien imaginée, lui apparut comme elle apparaît aux fauves terrassées. Il claqua des dents, ses oreilles blanchirent. Et néanmoins, il crana, « On montrera qu'on a de la moelle !» En ce moment, on le toucha légèrement à l'épaule. Il fit un bond de côté, une épouvante immense se tordit, et il cria, « Je veux pas, au secours, je veux pas !» Il courait autour de la cellule. Deux hommes le saisirent, mais ses cris étaient transformés en un long hurlement, un hurlement de loup au fond des bois. Tout à coup, d'un effort terrible, il se dégagea, écarta l'aumônier, repoussa le procureur et se jeta sur moi. Il m'avait saisi dans ses bras, il m'étreignait avec un tremblement affreux, son visage se cachait dans mon cou comme le visage d'un enfant et il sanglotait. « Sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi !» Il est tout à fait impossible de vous dépeindre l'épouvante de cette... J'avais l'impression que l'assassin était devenu un être de ma race, un être de mon sang. Un goût affreux emplissait ma bouche. J'avais les entrailles tendues comme des cordes, et mon cœur tantôt grondait comme un torrent, tantôt se taisait dans une défaillance. Je me souviens que des larmes chaudes coulaient des yeux de l'homme dans ma nuque. Je n'en pouvais plus. J'allais m'évanouir. Lorsque les aides du bourreau s'emparèrent violemment de la victime et l'emportèrent pantelante à travers le corridor. Quant à moi, je demeurai là, anéanti, avec le sentiment d'une horreur irrémissible que je partageais avec les juges, les geôliers, le bourreau et toute la société. « Depuis, » continua Baster avec un étrange sourire, « je lutte pour la vie des criminels avec une rage furieuse. Je mets à sauver leur tête quelque chose de l'ardeur que je mettrais à sauver la mienne. Mais je n'ai jamais plus eu le courage de rendre visite à l'un de mes clients, à leur formidable Audeblère, examine la veuve. »